Donc comme on l'a vu ce matin, on a commencé une série pour savoir qu'est-ce qu'on mange entre deux repas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien entre ces deux dimanches. Est-ce que c'est juste le dimanche mon repas spirituel, ou est-ce que ma vie chrétienne va plus loin que cela? Malheureusement, je trouve que dans notre église et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, et j'ai pu en visiter quelques-unes durant ces dernières années, souvent le chrétien commence à être un peu comme le chrétien catholique ou le religieux. Il vient le dimanche matin, il aime bien être là, mais après sa vie dans la parole, sa vie dans la prière, sa vie dans l'évangélisation, sa vie dans la communion fraternelle ne va pas plus loin que cela. Et c'est ça qui est dommage, qu'il faut qu'on reconsidère cette importance que la vie chrétienne n'est pas juste le dimanche, mais qu'entre ces deux dimanches, il y a beaucoup de choses à faire pour la gloire de Dieu et pour notre vie spirituelle, pour notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela est très important. Donc ce matin, nous avons vu ce premier élément de réponse dans qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre zèle pour Jésus-Christ soit là. On a vu cet amour de la parole de Dieu, cette vie dans la parole de Dieu quotidienne. Et cela est très important. Et ce matin, on va voir un deuxième petit aspect de qu'est-ce qu'il y a à faire durant cette semaine. La prière. Alors la prière, on pourra en parler des heures et des heures. Vous connaissez l'auteur du Voyage du Pèlerin, John Bunyan, ou encore un grand réformateur anglais tel que Edward Bunce, ou encore Charles Spurgeon, J.R. Rice, qui ont écrit d'excellents livres sur la prière. Plein de livres ont été écrits sur la prière, dans des langues internationales. Ces livres ont été écrits. Et lorsque je lis ces livres, je me dis constamment, comment ces hommes sont-ils arrivés à ce stade-là? Comment ces hommes sont-ils arrivés à ce stade d'être des hommes de prière, des passionnés de la prière? Ces livres sont encourageants, mais nous constatons très rapidement que ce n'est pas de lire des livres qui font de moi un homme de prière. Vous savez, tant d'engagements que j'ai pris après avoir lu des livres sur la prière. Tant d'engagements que je n'ai pas tenus. Alors peut-être, comme le dit un livre, que je suis trop occupé pour ne pas prier. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, tant de choses à faire, n'est-ce pas? Nos journées sont bien remplies, que nos vies de prière deviennent secondaires ou inexistantes. Ce matin, je ne viens pas avec des règles ni des méthodes par rapport à ce thème. Ce matin, j'aimerais juste peut-être, et j'espère que le Seigneur va m'aider à cela, vous redonner goût à cet amour de la prière. J'espère que ce matin, nos consciences pourront être réveillées et que l'Esprit de Dieu va pouvoir nous montrer qu'il faut faire des efforts dans ce domaine-là, avoir de la persévérance dans cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Si on me demandait de citer un verset sur la prière, je pourrais en réciter des dizaines, avec le mot prière ou la thématique de la prière. Mais est-ce que cela fait de Florent un homme de prière? Est-ce que de connaître plein de versets sur la prière fait de moi un homme de prière? La réponse est non. Alors que faire pour tendre vers cette caractéristique d'être une personne de prière agréée par Dieu? Que faire? Donc voilà, mon introduction elle est finie maintenant. J'ai fini mon introduction. Ça va, elle n'était pas trop longue. Maintenant la question qu'il fallait que je me pose quand j'ai fini cette introduction, c'est mais quel verset on va choisir, Florent? N'est-ce pas? Il y a tellement de versets dans la parole qui parlent de la prière. Alors quel verset prendre pour ce sujet? Je pourrais faire une prédication très méthodique, avec grand 1, grand 2, grand 3 sur la prière. Je pourrais vous parler de, voilà, dans la prière, il faut confesser, remercier, puis adorer. Ce n'est pas faux. Et enfin, demander. Je pourrais aussi insister sur le fait que nous pourrions, ou que nous devons, prier sans cesse. Encore un thème de la prière. Ou encore parler de ne pas tomber dans la routine de la prière. Je pourrais aussi vous montrer comment établir un programme de prière. On pourrait aussi discuter sur les mystères des prières non exaucées. Ou encore les entraves à la prière. ou même le fait de s'endormir sur la prière. Et la liste peut continuer. Et on pourra en trouver des thèmes et des thèmes et des thèmes sur la prière. Et je suis arrivé à cette réflexion. Si ma vie n'est pas caractérisée par la prière, c'est parce qu'à un endroit par là, je sais que la prière est importante pour ma vie. Florence sait que la prière est importante pour sa vie et pour ceux des autres, mais elle n'est pas considérée comme vitale. Je sais que la prière est importante, mais est-ce que j'ai pris conscience qu'elle est vitale? Si elle n'est pas considérée comme vitale, alors il n'est pas étonnant que pour moi, la prière n'est plus essentielle. Et donc, si elle est plus essentielle, elle n'est plus une priorité dans ma vie. Vous voyez, ça va loin ce raisonnement. Je dirais même que la prière n'est plus faite avec amour, mais comme un devoir. La prière n'est plus faite avec amour des fois, mes frères et sœurs, mais comme un devoir. Vous allez me dire, mais oui, mais Florent, mais il est marqué dans la Bible, prier sans cesse, c'est un devoir. Oui, elle est faite de toutes les nations des disciples, aussi un devoir. Mais est-ce que ce devoir, je le fais parce que celui que j'aime me demande de le faire? Est-ce que c'est par rapport à une relation d'amour que je le fais? Ou parce que juste une obligation? Et mes amis, lorsque nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, alors nous allons pouvoir redécouvrir une vraie vie de prière. Sans cet amour passionné pour Jésus-Christ, nos vies de prière sont vaines. Nos vies de prière n'ont plus de goût, je dirais. Nos vies de prière sont mortes. Cet amour pour Christ est lié à cet amour de la prière. Premier passage que j'aimerais lire avec vous, sans trop m'attarder dessus, c'est voir cet amour perdu d'une église, l'église d'Éphèse. Alors prenez avec moi Apocalypse. Apocalypse 2. Notre amour perdu pour Jésus-Christ est lié à cet amour de la prière. Apocalypse 2. Je commencerai avec le verset 2. Jésus-Christ qui parle. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. On s'arrête là. Que de choses positives, pardon. Que d'encouragement de la part du Seigneur pour cette église. Une église persévérante. Une église qui était constituée d'hommes et de femmes qui, à mon avis, aimaient prier. Une église d'Éphèse qui était passionnée par les choses de Dieu. Une église qui vivait, comme on l'a vu ce matin, cet amour de la parole, cette communion fraternelle. Et cette persévérance, bien sûr, dans le bon combat de la foi. Une église qui avait aussi du discernement, qui arrivait à voir ceux qui étaient menteurs, ceux qui trompaient les autres. Donc une église, je pense, exemplaire ici. Si vous regardez avec moi, pas de péché particulier, pas de fausse doctrine dans cette église. Mais il y a eu un problème. Il y a un problème. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, peut-être chrétien, 2009, juillet 2009, ce matin dans cette église de Florac, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes amis, il est très facile de se cacher derrière cette perte de ce premier amour. Mais il est peut-être réel dans ta vie ce matin. Tu n'as peut-être pas de péché particulier. Éphèse n'en avait pas. Tu n'as peut-être pas un problème de doctrine dans ta vie. Éphèse n'en avait pas. Mais peut-être que ce matin, le Seigneur te dit, regarde cette personne que tu étais zélé avant. Regarde cet amour que tu avais pour moi. Regarde cette passion que tu avais pour moi, pour la parole de Dieu, pour la prière, pour l'évangélisation. Où c'est tout ça ce matin? C'est où? Pourquoi? Comment es-tu arrivé là ce matin? Pourquoi as-tu perdu tout cela pour moi alors que tu étais tout flamme, tout feu, tout flamme pour moi? Est-ce que tu veux changer ce matin? Est-ce que tu veux retrouver cette passion pour moi? Est-ce que tu veux redevenir rempli de zèle pour moi? Et la réponse est oui, alors c'est possible. Et il donne la solution. C'est ça qui est merveilleux avec notre Seigneur, c'est qu'il donne la solution. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et verset 5, alors, la grâce de Dieu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et repens-toi. Et ça va plus loin. Et pratique tes premières œuvres. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Reviens à moi, repens-toi. Reconnais que cet amour pour moi n'est plus là. Sois honnête, sincère avec moi. Oui Seigneur, j'ai perdu cet amour pour toi. Mais je ne veux pas rester comme cela. voilà, j'ai perdu cet amour depuis tel jour, telle date, tel temps, parce que tu n'es plus la priorité dans ma vie, parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris le dessus, mais je ne veux plus que ça soit le cas ce matin. Je veux retrouver cet amour passionné pour toi dans la parole et dans cette vie de prière. J'ai envie, Seigneur, et je veux remettre en pratique ces œuvres que je faisais pour toi il y a quelques semaines, quelques mois, ou peut-être quelques années pour certains. La conséquence, c'est sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Ok, le chandelier, petite précision pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, c'est absolument pas le Saint-Esprit. Ok, c'est impossible de prendre ça parce que le chandelier, il dit qu'est-ce que c'est le texte biblique. Il le dit au chapitre 1, verset 20. Voilà, règle d'hermeneutique de traduction, d'interprétation de la Bible. Donc, qu'est-ce que le chandelier? Le chandelier, c'est une église. Donc là, il est en train de dire, si église d'Éphèse, tu ne repens pas, tu ne retrouves pas ton premier amour, l'église va disparaître. Le bâtiment, la vie d'église va disparaître. Ce qui est normal. Si les chrétiens ne sont plus à fond pour Jésus-Christ, ils vont s'éparpiller un peu partout et l'église, le lieu de culte, n'aura plus lieu d'être. Donc voilà, ce raisonnement logique de quand le Seigneur dit j'ôterai ton chandelier, qui se réfère au verset 20 du chapitre 1 d'Apocalypse. Voilà, et ce n'est pas l'esprit que on peut perdre le salut comme certains voudraient l'interpréter. Mais voilà, revenons à ce zèle pour Jésus-Christ, pour avoir une vie de prière et de persévérer dans cette vie de prière. Tout comme Acte 2, 42 nous le dit. Si vous reprenez Acte 2, 42, ça résume un peu, comme je le disais en introduction, ce que nous devons faire entre deux repas, entre ces deux dimanches. Enseignement des apôtres, donc enseignement de la parole de Dieu, nous dit Acte 2, 42. Cette communion de partager le pain les uns avec les autres, cette communion fraternelle, et puis cette vie de prière. Si vous voulez résumer votre vie pratique de la semaine, étude de la parole de Dieu, enseignement des apôtres, vie de prière et communion fraternelle. Et c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que je fais la semaine? Pas ce que je fais ce matin, qu'est-ce que je fais la semaine avec le Seigneur? Le deuxième passage que j'aimerais voir avec vous, donc voilà, ça c'était le petit passage de réveil, de dire voilà, si j'ai perdu ce premier amour, il est possible de le retrouver. Ce n'est pas une fin en soi, il est possible. Et le deuxième passage que j'aimerais voir avec vous, c'est un passage qui donne goût à aimer la prière. Et c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1er, et à partir du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante, Élie dit pardon, non, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, donc Elkana qui est le mari de Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je vais demander à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Voilà, je m'arrête là pour un instant. Acteur de la scène, une femme, Anne. Un homme, Élie, et l'Éternel. Et puis Elkana, plus tard le mari de Anne. Problématique. D'accord ? Trois personnages, et il y a une problématique. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant depuis des années. Une femme stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et depuis des années, pas de réponse de l'Éternel. Elle prie, mais pas de réponse de l'Éternel par rapport à cela. Douloureux, douloureuse pour cette femme, et on va le voir dans notre passage. Et regardez avec moi quand même la première fois où le mot prier apparaît dans ce passage. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça commence bien. Hein ? L'amertume dans l'âme, elle pria avec des pleurs. Où est l'amour de la prière ici, Florent ? Tu nous dis, tu parles de l'amour de la prière et tu nous prends un passage, tu commences l'amertume dans l'âme et elle pria. Bien choisi, n'est-ce pas ? Mais cette femme est blessée intérieurement. Cette femme souffre, comme nous pouvons souffrir aussi. Et son amour pour son Seigneur et sa confiance en lui est quand même bien présente. Cet amour, cette amertume dans l'âme, c'est toutes ces non-compréhensions qu'elle a de la part de Dieu. Ces non-réponses peut-être qu'elle attend de lui. Et oui, elle est blessée. Oui, elle souffre, comme nous aussi. Mais est-ce que cela fait de nous de perdre l'amour de la prière ? Et c'est là que je veux en venir, c'est que non. Cette femme Anne va continuer, va persévérer, malgré sa souffrance, ses douleurs, dans cet amour de la prière, dans cette confiance en son Seigneur. Cette femme prie à cœur ouvert, en implorant Dieu de lui accorder un enfant qu'elle voudra consacrer à l'Éternel. Je crois que ça est riche d'enseignement aussi pour nous. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Une femme qui va attendre pendant des années et des années d'avoir un enfant qu'elle ne peut pas avoir. Et voilà, cette femme, on connaît la fin de l'histoire, va porter pendant 9 mois cet enfant. Et au bout de ces 9 mois, cet enfant, dont elle a promis à l'Éternel de le consacrer à lui, de dire, tu prendras mon enfant dès son plus jeune âge pour l'enseigner et pour qu'il devienne ton serviteur. Quel amour pour son Seigneur. Elle aurait pu dire, mais Seigneur, ça fait des années que j'attends ça. Je t'ai fait ce vœu-là, c'est vrai, parce que je pensais que tu allais peut-être me le donner. Tu me l'as donné, mais maintenant, je le garde. Je le garde, je ne vais pas te le donner. Attends, ça fait tant d'années que j'attends cet enfant. Tu crois que je vais te le laisser pour taille pour qu'il se soit consacré toute sa vie, que je le voie quasiment pas de ma vie. L'amour, la prière, respecte les vœux que nous faisons lorsque nous prions le Seigneur. Ai-je envie, en tant que parent occidentaux de l'an 2000, de vouloir amener mon enfant à se consacrer à l'Éternel, d'encourager mon enfant à faire une formation biblique, par exemple ? Est-ce que dans cet amour de la prière, est-ce que nous prions pour que nos enfants soient consacrés à l'Éternel, soient prêts à se former ? L'amour de la prière nous amène à voir le meilleur pour notre propre chair, nos propres enfants, c'est-à-dire se consacrer à l'Éternel. Vous savez, le meilleur pour mes enfants, ce n'est pas qu'ils aient les meilleures notes possibles, la meilleure réussite scolaire ou professionnelle, mais c'est qu'ils se consacrent un jour à l'Éternel. C'est vraiment mon souhait, mon vœu personnel. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit les cancres de la classe, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que, pour moi, la vision que j'ai pour mes enfants, c'est qu'ils se consacrent à l'Éternel. Qui vivent pleinement pour le Seigneur. Parce qu'ils peuvent réussir toute leur vie scolaire. Peut-être grâce, entre guillemets, à mon éducation. Ils peuvent réussir toute leur vie professionnelle, même leur vie familiale, avec les bons enseignements que je leur ai donnés. Mais si leur vie n'appartient pas à Jésus-Christ, à quoi ça sert? Alors être des exemples, et des hommes et des femmes qui aiment la prière pour emmener nos enfants à se consacrer à lui. La deuxième fois où on voit le mot prière dans notre passage, par rapport à une notion de temps. Regardez avec moi le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Alors combien de temps, je me suis posé cette question, peut-être qu'il y en a un qui a la réponse ici, je serais content. Combien de temps signifie longtemps? Bonne question, hein. Parce que j'ai pas eu d'élément de réponse. J'essaie de chercher, mais j'ai pas eu d'élément de réponse. Combien de temps signifie longtemps? L'amour de la prière ne nous donne pas de règles de temps. C'est ça qui est beau. L'amour de la prière ne donne pas de règles de temps. Lorsque j'aime être avec quelqu'un, le temps ne compte pas. Lorsque j'aime prier, le temps ne compte pas. Si le temps doit être court parce que c'est un moment, voilà, qu'il faut que ce soit précis avec mon Seigneur, eh bien ce sera court. Si mon temps doit être long avec mon Seigneur, alors le temps sera long parce que je l'aime. Des fois, on aime quelqu'un, il faut qu'on lui dise une chose claire, nette et précise très rapidement. On l'a dit, puis on s'arrête. Et puis des fois, il faut que ça prenne plus de temps. parce que la discussion est différente. Avec le Christ, c'est la même chose. Il n'y a pas de règle de temps. Mais notre amour pour lui nous fait passer soit longtemps, soit des fois des courts temps. L'amour de la prière, nous allons voir encore un autre mot par rapport à la prière, n'a pas de lieu obligatoire, ni de position. Et on continue tout simplement notre passage dans ce Samuel. Anne, verset 13, parlait dans son cœur. Donc Anne priait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Je vois cette femme, là, assise dans ce repas, tout simplement les yeux ouverts et en train de prier. Vous voyez, des fois, on veut avoir une position, un lieu. Mais la Bible montre tellement de cas différents qu'il n'y a pas de rituel à avoir pour la prière. On peut prier en conduisant les yeux ouverts. Prier les uns pour les autres. Cette femme-là était assise et priait, elle répondait son âme à l'Éternel. De toute façon, oui, vaut mieux avoir les yeux ouverts quand on prie en conduisant, hein, que les avoir fermés, c'est sûr. Mais voilà, cette femme priait. Au passage, encore une fois, un comportement à éviter. Regardez Élie. Élie a un mauvais jugement, pourtant prophète, mais un mauvais jugement sur cette femme. Il pense que cette femme est ivre. Quel dégât il aurait pu faire dans le cœur de cette femme. Cette femme qui est déjà remplie de souffrance, qui a mal. Et elle est en train de prier devant son Dieu et lui, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec l'alcool? Arrête de boire! Quelle parole blessante! Vous avez noté, restons vigilants à ne pas hâter un jugement sur tel ou tel enfant de Dieu. Nous aussi. Mais Anne, c'est pas ça qui va l'arrêter. Elle va continuer à prier et à adorer son Seigneur. Elle va même passer au-delà de cela. L'amour de la prière va au-delà des fois des préjugés qu'on peut avoir sur nous-mêmes. On continue à prier et à adorer le Seigneur. On pourrait dire, oh, regarde tel frère a parlé de moi. Regarde, lui c'est un pasteur, regarde, il a eu ça sur moi. Oh là, à quoi ça sert de te prier, Seigneur, je pourrais m'arrêter. Est-ce qu'Anne va fonctionner comme ça alors que c'est un prophète de Dieu qui vient la reprendre sur quelque chose qui est faux? Non, elle continue à prier. Et on connaît la suite de l'histoire, cette femme va être bénie et exaucée par le Seigneur. Et cet amour de la prière prend forme ou prend tout son sens au chapitre 2. Cette prière nous donne envie de prier normalement. Cette prière est tellement remplie de passion pour son Seigneur qu'on va la lire. Et je ne vais pas faire de commentaires. On va juste terminer ce moment de prédication par la lecture de cette prière. Que cette prière puisse nous redonner goût à avoir cet amour passionné comme Anne l'avait avec son Seigneur. Nous prendrons un temps ensuite pour prier et reconsidérer l'importance de cet amour pour la prière et cette vie de prière que le Seigneur nous demande d'avoir. Alors nous y allons. 1 Samuel 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante sept fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel, à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Quelle prière, mes amis. La prière, c'est le plus noble exercice de l'homme. Prions. C'est vrai, Seigneur, qu'on pourrait parler des heures sur tant de thématiques de la prière. mais parler de la thématique de la prière de manière méthodique ou très, je dirais, spirituelle ou très académique ne sert pas à grand chose si déjà notre propre vie de prière n'est pas vraie, authentique, passionnée. Ce matin, je te demande tout simplement de nous donner cette intelligence spirituelle par la puissance de ton esprit, de reconsidérer l'importance de l'amour de la prière, de reconsidérer cette importance pour que notre vie soit différente. Oh Seigneur, nous voyons durant ces quelques semaines ce qui nous incombe de faire en tant que chrétiens durant ces deux repas spirituels du dimanche. Et cette respiration de l'âme qui est la prière est bien souvent oubliée dans nos églises, dans nos propres vies. Seigneur, je te demande pardon pour ma propre vie. Oh, c'est sûr, j'ai pu lire tant de livres sur ces hommes de prière, mais ce n'est pas ça qui fera de moi cet homme-là. Père, j'ai envie de redécouvrir cet amour de la prière, d'être passionné par toi, de prendre ce temps comme Anne le faisait. Je le demande en Jésus-Christ, que nous soyons des hommes et des femmes passionnés par la prière, de manière individuelle, mais aussi que nous aimions prier ensemble, intercéder ensemble, être reconnaissants ensemble dans la prière. Que ton esprit travaille nos cœurs, je te le demande en au nom de Jésus-Christ.